بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. طيب دونك افراك ما دوني دي كيستيون كونسيرنون العصمة. دونك الله سبحانه وتعالى قال عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، c'est-à-dire que les prophètes sont normalement exonérés de péché, comme on a dit, ils ne commettent pas d'erreur. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y avait l'histoire de l'aveugle, Ibn Ummi Maktoum, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de parler avec un groupe des grands responsables, des mécréants de Médine, de la Mecque, Kuffar Quraysh. Il essayait de les convaincre de se convertir à l'islam. Donc il y avait l'aveugle qui est venu, et c'était un musulman, il voulait poser une question au professeur Hassan. Le professeur Hassan il a entamé une discussion et d'arguments, etc. L'aveugle venait parler, c'est-à-dire, en quelque sorte, il a dérangé le professeur Hassan dans son argumentation. Le professeur Hassan est allé, il voulait que ces grands Qurayshites se convertissent à l'islam, il était dans un débat, il essayait de les convaincre, etc. Donc la question de ce sahabi pouvait attendre, c'est-à-dire elle pouvait attendre, c'est pas quelque chose de pressé, et lui, le professeur Hassan était occupé. Donc ce professeur il a regardé d'un air pour lui dire « Attends, c'est-à-dire toi, je peux te voir après. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il y a eu la révélation où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, attends, non, occupe-toi plutôt de cet aveugle. Et ces gens-là, de toute façon, ils ne seront pas convertis, mais donne plus d'attention à cet aveugle-là, etc. La question, quand on dit le prophète ne commet pas d'erreur, bien sûr, de ce qui lui a été révélé. C'est-à-dire quand il est devant un comportement. Le prophète, quand une situation se présente devant lui, il faut retenir ça, c'est une très bonne question que le frère a posée. Quand une situation se présente devant le prophète, soit il a une révélation, donc maintenant, il ne va pas se tromper directement, il va appliquer ce que la révélation lui a dit, ou bien il va se comporter en tant qu'être humain, pas en tant que prophète. Là, il peut faire une erreur en tant qu'être humain, bien me suivra, ou bien il peut avoir raison dans son comportement. Mais si jamais, en tant qu'être humain, il fait l'erreur, dans ce jumeau, rapidement, il y a la révélation qui vient le corriger. Ça ne dure pas une seconde. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire la révélation, elle va le corriger vite fait. Il n'y a pas que le verset de Abbasah, il y a d'autres versets, d'accord? Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est corrigé quand il se comporte en tant qu'être humain. On lui a proposé, le professeur Hassan Amidine, de faire les dattes pour qu'elles poussent, on les frotte, etc. On lui a proposé, on dit à Rasulallah, est-ce que tu peux venir nous frotter nos dattes pour qu'elles donnent l'année prochaine des dattes? Il est venu, il a frotté, ça n'a pas donné. Ils lui ont dit à Rasulallah, ça n'a pas donné. Qala antum a'lamu bi umur ad-dunya, comme il a dit, ça c'est des choses de la dunya, moi je ne suis pas venu pour frotter les dates, je suis donné pour la révélation, pour des... D'accord. Donc, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, prend un jugement ou décide de quelque chose, si c'est à partir de la révélation, sûr pour 100% qu'il y a pas de, il se comporte en tant que prophète. Mais si il fait un jugement, comme la question de Ozra Zotbadr qu'on a vu tout à l'heure, rapidement, la révélation, elle va le corriger comme il a été corrigé sur cette question de ce sahabi. Ensuite, la deuxième question, c'est-à-dire de dire toujours la vérité, Sayyidina Ibrahim al-Khalil, quand les kofars, donc il y avait beaucoup de statues à son époque, donc il a commencé, comme c'est un ces gens de kofars, on ne peut pas leur parler avec le texte, il faut leur parler avec la raison, d'accord? C'est pour ça qu'on parlait de la raison, le raisonnement, c'est Jibril. Le raisonnement... Quand on parle avec, sur la question de notre frère, là, avec le débat, quand on parle avec des musulmans qui ne sont pas tout dans le droit chemin, ou bien des non-musulmans, on commence par parler par l'argumentation, par la raison. Quelqu'un qui ne reconnaît pas l'islam, tu ne peux pas lui apporter un hadith, tu ne peux pas lui apporter un verset, bien que tu peux apporter le verset pour argumenter, etc. Mais il ne croit pas au texte. Donc il faut parler à partir de raisonnement. Et ce raisonnement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a appris. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. Qui est-ce qui peut donner vie à ces os qui sont pourris? On nous dit, bon, il y aura, ils vont être ressuscités. L'être humain, comment c'est des choses pourries complètement? Regarde, on les prend entre nos mains, ils deviennent de la poussière. Allah Azza wa Jal, par raisonnement, directement, il répond à cette attaque, à ce défi qui est lancé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dis-leur que ces os-là, celui qui va leur donner la vie, c'est lui qui leur a donné la vie en premier du néant. C'est-à-dire, logiquement, c'est plus facile à des os qui ont déjà existé de réexister que qu'ils n'ont jamais existé. C'est qu'ils ont existé, c'est plus facile pour lui. Or, on ne peut pas dire pour Allah, c'est plus facile. Mais logiquement, pour nous, c'est plus facile. Donc, ce raisonnement-là, Allah Azzawajal l'a utilisé. Sayyidina Ibrahim, la même chose, quand il a détruit toutes les statues, parce qu'il constate qu'à cette époque, les gens adorent des statues. Donc il a dit, bon, ces gens-là, il faut commencer à leur parler, leur prouver que leurs statues, elles ne font rien, qu'elles ne font rien faire, elles ne peuvent rien faire. Donc il a détruit toutes les statues, il a laissé une seule plus grande, et c'est-à-dire la manche avec laquelle il cassait les statues, il l'a mis sur la plus grande et il est parti. Quand ils sont venus de leur champ, etc., ils sont arrivés, ils ont dit, qui est-ce qui a détruit nos statues? Ils ont dit, on a entendu parler d'un jeune, Fatah, Al-Futuwa, la chevalerie. Et le mot fatah, dans le Coran al-Karim, toujours, il est cité dans un sens positif, pas péjoratif. Innahum fitatun amaru bi rabbihim. Futuwa, la chevalerie, c'est-à-dire, c'est pas seulement un jeune, mais un porteur de quelque chose de très très fort. Vous allez trouver ça dans les ouvrages de Tassawuf, ça s'appelle de la chevalerie. Futuwa. Inna sami'na fatan yadhkuru. On a entendu parler d'un petit jeune qui parle des choses de mal, de. Donc ils ont dit, ramenez-le, on va voir. Quand il est venu, il a dit, ben, écoutez, c'est pas moi, hein, regardez, la manche, elle est sur l'épaule de sa plus grande statue. C'est sûrement, c'est lui qui a détruit les statues. Donc le fait que Sidna Ibrahim Khalil a dit ça, c'est pas un mensonge. C'est qu'il veut leur prouver, quand il a dit ça, c'est pas pour mentir. Mais ensuite, ils ont dit, oui, c'est vrai, finalement. Et ensuite, il dit, mais tu le sais qu'eux, ils ne parlent pas. Parce qu'il a dit, alors, posez-lui la question, posez-lui la question à lui. Donc il veut, c'est pour les raisonner qu'il a fait ce yani, tahaddi, d'accord. C'est pas pour mentir. Il a dit, donc il a dit, non, logiquement, c'est ce plus grand qui l'a fait, puisqu'il a sur lui, donc posez-lui la question. Donc c'est pas pour qu'il a dit ça, c'est pas parce qu'il ment, c'est une hacha, mais pour les défier, pour les rendre à la raison, d'accord. Ensuite, le frère pose la question de l'ilm ladouni, c'est-à-dire la science qu'on peut recevoir par la science cachée que Allah Azza wa Jal peut donner. Donc la science que tu vas acquérir en allant à l'école, à l'université, c'est Allah qui te la donne. Et que si tu es un saint, un grand saint d'Allah Azza wa Jal, et que Allah purifie ton cœur, il te donne aussi, c'est lui qui te donne cette science. Donc il n'y a pas de problème sur cette question-là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle ilham. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا. On lui a donné une science, on a fait jaillir de son cœur. Imam Ghazali, et dans son livre d'Ihya, il explique bien cette question de science. Il donne la science, il dit, c'est comme l'eau. On peut avoir de l'eau dans un endroit, dans une bien précis, par deux façons. Soit on fait une sorte de on creuse jusqu'à ce qu'on fait des tuyaux, c'est comme des tuyaux, on ramène l'eau dans l'endroit très loin, vers ce trou-là, ou bien on peut avoir un trou et on creuse jusqu'à ce qu'on fait un puits et on fait jaillir l'eau de l'intérieur. Donc il y a deux façons d'arriver à avoir l'eau. Il y a des gens qui ils creusent dans leur intérieur, d'accord, ils se purifient intérieurement jusqu'à ce qu'ils font jaillir cette science pure que Allah Azza wa Jal a mis dans le cœur de chaque être humain, sauf que cette science-là, elle est enveloppée de péchés, etc. On ne peut arriver à elle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait jaillir des cœurs de ceux qu'il aime, il leur donne cette science-là comme il l'a donnée à ceux qui vont à l'école et apprendre. Donc les deux, c'est Allah Azza wa Jal qui la donne, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je n'ai pas compris le hadith. Bon, oui, si j'ai bien compris, hein, c'est-à-dire la science, elle peut être pour Allah comme elle peut ne pas l'être. C'est-à-dire tout dépend pourquoi on apprend la science. C'est-à-dire, tout dépend pourquoi on apprend la science. L'imam Ghazali, il a dit un jour, طَلَبْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَأَبَى الْعِلْمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ. Nous avons appris la science, pas pour Allah, mais la science a voulu qu'elle ne soit que pour Allah. Il parle de son cheminement, c'est extraordinaire, le livre de, qu'il trace à peu près son cheminement à lui, s'appelle Al-Munqidh min al-Dhalal. Comment on peut le traduire ce livre-là, celui qui a le manque.
Comment il appelle la délivrance de l'erreur.
La délivrance de l'erreur. Bon. Délivrance de l'erreur, à peu près. Donc, c'est un très très bon ouvrage qui est traduit d'ailleurs, qui trace son cheminement à lui. Il parle que, il dit effectivement, à un moment donné, il a commencé à se poser des questions. Il est devenu le plus grand savant de son époque, l'un des plus grands savants. Est-ce que j'ai appris cette science-là et je l'ai transmis pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien pour que les gens disent « Oh, mashallah, c'est un grand savant. » Parce que la question de la sincérité, elle est très importante. Il a dit, j'ai constaté qu'intérieurement, il n'était pas tranquille. Il dit, quelque chose d'intérieur vers l'akhirah me tire, et quelque chose vers la dunya me tire, oh, attention, toi, tu iras aller, tu vas te laisser, machin. Donc, il avait un frère qui était un grand soufi, qui s'appelle Ahmed, qui a même écrit deux, trois ouvrages, qu'on ne connaît pas Ahmed al-Ghazali, c'est son frère. Il n'avait pas la science, on va dire, de fiqh ou sulfiqh, le hadith, le mantaq, etc., de Cheikh Ghazali. Mais, spirituellement, c'était quelqu'un qui avait un cheikh, il était très, très avancé. Il a dit, je vais voir mon frère. Je vais lui rendre visite, je vais voir mon frère, parce que intérieurement, je ne suis pas très, très bien. Spirituellement, j'ai un problème, bien qu'il ait été le grand cheikh de Madrasa Nizamiya, comme on dit aujourd'hui, Azhar, ou bien Zaytouna, ou bien Qarawiyyin. Donc, c'est une grande université, c'était le directeur, hein. Donc il est allé le voir, et c'est un petit cheikh, l'autre il a des disciples, machin, ils allaient faire la prière. Ahmed il voyait son frère entrer, il a dit bon, c'est toi qui vas faire la prière, c'est moi, toi, tu es le grand alim, mashallah, et il a fait la prière. Mais pendant la prière, son frère, il a fait salam alaikum, il n'a pas prié. Il s'est mis à côté, il s'est assis. Cheikh Ghazali, Abu Hamid Ghazali, il a dit c'est pas normal. Et il prie avec nous dans le groupe, et pendant la prière, il se met à l'écart. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas apte à guider les gens, ça lui touche à son honneur, quoi. Il a dit, mon frère, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, pourquoi j'ai fait ça? Je t'ai expliqué. Parce que quand on fait la prière, il faut être pur. Moi, je t'ai vu, tes vêtements n'étaient pas purs. Je t'ai vu plein de sang. Tu étais plein de sang. Donc, pour moi, je vois du sang en toi. Donc, je ne peux pas faire la prière sur quelqu'un que maintenant tu n'as pas de sang, mais moi, je t'ai vu dans la prière, tu étais plein de sang. Donc, pour moi, la prière n'est pas valable. Il a dit, qu'est-ce que tu as pensé pendant la prière? Il a dit, Wallah, du début jusqu'à la fin, il y avait une question sur la question des règles chez les femmes. Depuis le début, à la fin, je pensais qu'à cette question-là. Elle m'a troublé, je n'étais pas concentré dans ma salade. Donc, il l'a vu en plein sang. Il lui a dit, cette science qui t'a permis de voir ça, je la veux. Je veux cette science-là. On a parlé tout à l'heure du Sidna al-Khadr. Il a dit, écoute, cette science, c'est quelque chose d'apprentissage de l'intérieur, de l'ego, etc. C'est un travail spirituel. Sidna Jibril, alayhi salam, il a parlé de cela quand il a posé la question du professeur. Qala, akhbirni an l'ihsan. Qu'est-ce que c'est que l'ihsan? Qala, an ta'bud Allah ka annaka tara, fa in lam takun tara, fa inna yara. C'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, c'est ce qu'il est en train de te voir. Il lui a tracé les deux grands, le petit degré et le grand degré de cheminement de la spiritualité, à savoir que le musulman doit savoir que Allah Azza wa Jalla l'observe, ou le statut, c'est comme si tu adores Allah Azza wa Jalla, comme si tu le vois. C'est-à-dire tu le vois avec ton cœur, bien sûr, c'est pas en voyant avec les yeux. C'est-à-dire tu es dans une vérité, tu es dans une haqiqa, Allah Azza wa Jalla, tu observes ces signes dans chaque chose. Chaque atome de cet univers, tu observes les attributs et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas n'importe qui peut arriver à ce stade. Donc, c'est pour ça, Sidna Jibril, le prophète Sallam a dit, si tu n'arrives pas à ce stade-là, que tu vois Allah Azza wa Jalla, ces signes dans chaque atome qu'a créé dans cet univers, alors sache qu'il est en train de te voir, ne commets pas un péché, parce que où tu vas, Allah Azza wa Jalla est avec toi. Donc, pour revenir chez Ghazali, bon, il a été voir le cheikh de ce cheikh, qui était un maître spirituel spécialisé dans l'éducation spirituelle. Il a commencé à lui conseiller des ouvrages, à lui donner des vies, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Il lui dit, vous, vos problèmes, les savants, il est pire qu'un simple musulman qui n'a aucune responsabilité, il est responsable que sur lui-même. Mais toi, tu es un grand savant, c'est-à-dire, ton ego, il est immense. C'est d'où on va commencer à... Donc il lui a donné qu'est-ce qu'il faut faire, lecture de quelques ouvrages spécialisés dans la purification, on va dire, intérieure, etc. Il lui a dit, le jour où, quand les gens viennent te dire « Oh, mashallah, tu es bien » ou bien viennent t'insulter, que tu sens rien dans ton cœur, ce jour-là, sache que ton cœur, il est guéri. Mais du moment que ton cœur bouge, et il est content quand les gens lui disent « Ah, tu as de la sens, mashallah » ou bien ils t'insultent, que tu deviens contre eux, sache que tu n'es pas encore guéri, ton ego toujours prend le dessus. Il a dit « Cheikh Lazal, il dit, bon, il a été à Damas, ensuite il a été à Al-Quds, il a dit, il est resté 11 ans. Dans son combat contre neuf, il a dit, quand il est revenu, il a revu ses élèves, c'est là qu'il a acquis revivification des sciences religieuses. Ihya ulumdin, parce que les sciences, il dit, on constate qu'elles commencent à devenir mortes. Et ça, la constatation, on la voit aujourd'hui. C'est-à-dire que la salat, ou bien le siyam, ou bien le hajj, c'est-à-dire c'est une pratique. Mais il faudrait que cette pratique-là, elle a une âme. C'est-à-dire que ce n'est pas du sport, la prière, ce n'est pas, je vais faire 4 à 4, tac, 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 je vais partir. Est-ce que elle a un impact sur la vie de la personne, sur son comportement, etc. Tout ça, le détail, Cheikh Ghazali, dans son livre, Ihya ulumdin, revivification des sciences religieuses, donc il parle des graves choses qui nous empêchent de nous approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, commençant par notre ego, qui est notre plus grand ennemi. Il parle aussi de asrar, c'est-à-dire de l'intérieur de ces pratiques, de ces yens, de zakat, etc., comment on développe. Voilà, en résumé, le fiqh. On s'est arrêté à... Est-ce qu'on a commencé les... On a fini les ablutions sèches. Ouais. On est arrêté où? Non? Oui? Qu'est-ce qu'ils ont les bras?
Les ablutions sèches, c'était les bras. On faisait comme ça et on était...
Donc les ablutions sèches, on a dit qu'il y a des choses obligatoires. Il y a des choses recommandées, il y a des choses méritoires. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, que l'obligatoire, si on ne le fait pas, on oublie une seule chose dans les obligations, les obligations sèches ne sont pas valables. Les autres choses qu'on a citées dans ce qui est recommandé, ce qui est méritoire, c'est des choses de la sunna que le professeur sallam a fait. Il est très recommandé de les faire, mais si on les oublie, nos obligations sèches sont toujours valables. D'accord? Mais l'obligation, on a dit que frapper, la première fois, essuie le visage et les mains seulement. Ça, c'est l'obligation, avec l'intention de faire la prière. Ça, c'est l'obligation. Tout ce qui suit après, c'est des actes recommandés ou méritoires. Oui. On a parlé du déconseil, ikhlas.
Oui.
Oui. Non? Pardon?
On a parlé de ce qui annule.
Voilà, on a parlé, donc on a tout parlé, finalement. Donc, rapidement, parce qu'il ne nous reste qu'un quart d'heure, mais il faut qu'on sorte, parce que on doit laisser libérer la salle.
Chef, excusez-moi, j'ai juste une petite question. C'est oui. Par rapport aux ablutions, ce qui a mis les ablutions, on a vu qu'il y avait 16
oui.
Qui vous annulaient.
Oui.
Mais en fait, dedans, je n'ai pas retrouvé les pertes blanches ou bien les
saignements. Oui.
En fait, vous parce que... mettez dans tout le...
Parce que les saignements, vous dire... ça annule les grandes ablutions, en fait. On a parlé des grandes ablutions. C'est-à-dire tout ce qui annule les grandes ablutions annule les petites ablutions. D'accord, ça annule les grandes ablutions. Et tout ce qui annule les grandes ablutions, on n'a pas. C'est-à-dire tout ce qui annule les grandes ablutions annule les petites ablutions. Vous remarquez qu'on n'a pas parlé aussi de rapport entre hommes et femmes rapport dans les petites ablutions. Parce que ça annule la grande ablution, donc automatiquement les petites ablutions sont annulées. D'accord? Alors, on commence directement, on va avec le temps qui nous reste, on va essayer de faire vite, pour parler de la question de la prière, as-salat. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prier 5 fois par jour, bien sûr. Donc, on a 5 prières, ça c'est des prières obligatoires, as-subh, 2 rak'at, à l'aube, d'accord, al-dohr, 4 rak'at, donc dans le moment du zénith, hein, avec l'école. Ensuite, Al-Asr, donc c'est une prière de l'après-midi. L'après-midi. Ensuite, on a le Maghreb, c'est au coucher du soleil. L'Asr, c'est 4 rak'at aussi. Le Maghreb, 3 rak'at au coucher du soleil. Et l'Isha, 4 rak'at. D'accord ? Quatre rakats, donc la nuit, prière de la nuit. Ensuite, avec ces prières obligatoires, vous avez des prières surérogatoires, sunna recommandées. Donc, vous avez la première, c'est ce qu'on appelle la riba. Elle est fortement recommandée. C'est al-fajr, qui est de 2 rakats. Si vous priez dans le temps, c'est-à-dire vous vous réveillez actuellement, par exemple, 7h moins quart, ou al-fajr, par exemple, vous réveillez à ce moment-là, vous commencez par les prières surérogatoires, 2 rakats de fajr, qu'on lit qu'avec surat al-fatiha. D'accord ? Juste avec surat al-fatiha. Al-fajr, on lit juste avec surat al-fatiha. Dans l'école malikite. Me font ? Donc, 2 rakats de fajr, vous les lisez, ces 2 rakats de fajr. Après, vous priez 2 rakats de sobh, qui sont des 2 rakats obligatoires, fatiha et surah. D'accord ? Donc, toujours, on commence, quand on se réveille tôt, par les 2 rakats des prières surérogatoires, du fajr, on appelle ça al-fajr, ensuite 2 rakats de prières obligatoires, à savoir salat sobh, dont on va, inshallah, en parler après. Ensuite, on a la prière de Dohr, qui est dans les... Bon, on va dire à 13h actuellement, entre midi et 13h. Donc, cette prière-là, c'est 4 rakats, obligatoire. Vous avez, ce qui est recommandé, c'est de prier 4 rakats avant et 4 rakats après. Et chaque fois, quand on dit 4 rakats, chaque fois, chaque 2 rakats, on fait tslim. Hein? C'est-à-dire qu'on fait 2 rakats, ensuite on fait 2 rakats. D'accord ? On fait 2 rakats, on fait salam alaykoum, ensuite on fait 2 rakats. Salat al-Asr, prière de l'après-midi. Donc bien sûr, l'obligatoire c'est 4 rakats, mais il est recommandé de faire 4 rakats avant l'Asr. D'accord ? 4 rakats avant l'Asr. Si tu viens à la mosquée, il y a l'Adhan, tu attends que l'imam fasse la prière, tu fais 4 rakats, c'est-à-dire tu pries 2 salam, ensuite 2 et tu fais salam. Pour la prière du Maghreb, qui est la prière qui vient quand on est sûr que le soleil s'est couché, c'est 3 rakats, donc 2 rakats, ensuite 1 rakat. Toujours les 2 premières rakats dans les prières, ils sont avec Fatiha et Surah. Et ceux qui viennent après, c'est toujours avec Fatiha. D'accord ? Soit Dohr, ou bien Asr, ou bien Maghrib, ou bien Isha, toujours les premiers avec Fatiha et Surah, et les 2 derniers, ou l'une dernière après le Maghrib, c'est avec Fatiha seulement. Donc, les prières recommandées surrogatoires après le Maghrib, c'est 6 rakats. D'accord ? 6 rakats, 2, ensuite 2, ensuite 2. Quand on dit recommandé, c'est-à-dire si tu ne les fais pas, tu ne commets pas un péché. Mais si tu les fais, tu as de très très bonnes actions et tu appliques la sunna du prophète. Donc toujours, on fait 2, ensuite 2, ensuite 2. D'accord ? Et pour les étudiants en sciences, nos savants, nos chouyours, nous ont dit, ces prières-là, elles sont très importantes. Elles aident celui qui apprend la science à la mémorisation. D'accord, c'est très important. Allah Azza wa Jalla a fait un sir dans ces prières-là, que ce soit les prières surrogatoires après le Maghreb, ou bien ce qu'on appelle salat al-Duha, c'est-à-dire entre le lever du soleil, bien quand il se lève, bien jusqu'au zénith, de 8h30, quelque chose comme ça, jusqu'à midi. Il est recommandé de faire 2, 4, 6, 8 de prières surrogatoires qui s'appellent salat al-Duha. Ce sont des prières aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, qui sont très recommandées. Donc on a salat al-Isha qui est de 4 rakats. Il est recommandé aussi de faire 4 rakats après al-Isha, 2 rakats, ensuite 2 rakats, et terminer avec ce qu'on appelle shif' al-Witr. Terminer avec 2 rakats de chef et 1 rakat de l'ouetr. C'est-à-dire, chef, c'est le père, et père, P-A-I-R. Et l'ouetr, c'est l'impère. C'est-à-dire, d'accord, on termine toujours avec l'ouetr. Et ça, chef, il est très recommandé. Et l'ouetr, il est beaucoup plus recommandé. D'accord, l'ouetr, il est très, très, très recommandé, voire chez les hanafites, il est considéré comme un wajib. Hein. C'est-à-dire, ils font une distinction entre fard et wajib. C'est vraiment presque une obligation. Là.
Par rapport à salat
subh
et al-fajr,
oui.
Quand on fait la prière,
ils
sont en train de salat al-fajr,
oui.
Obligatoire, et qu'on se rend compte qu'on
n'a
pas fait
le
fajr.
Oui.
Donc, comment ça se passe?
Tout dépend. Si la personne, c'est une personne qui a l'habitude de. Si c'est une personne qui a l'habitude de faire la prière toujours en son temps, elle a toujours fait la prière en son temps. et que ça lui est arrivé un accident, elle ne s'est pas réveillée, elle est en retard, etc. Elle peut juste après Sop, après avoir prié avec le groupe, elle fait deux rak'at de Fajr. Mais si c'est une personne qui prie de temps en temps, ne se lève pas autant, non, une fois qu'elle a prié Sop, elle le prie une fois que le soleil s'est levé. Donc il y a deux cas à distinguer dans la pratique de l'Opa. Comme ça. Donc c'est bon pour ça que l'Isha, donc on a dit. Donc ça, c'est des prières recommandées. D'accord, on a les prières obligatoires, on a les prières recommandées. Non. Donc, as-salat, la prière, il faut la prier dans son premier temps, bien sûr. On verra, Inch'Allah, on parlera à un moment donné sur les temps des prières, parce qu'on n'a pas parlé apparemment. Hein? On n'a pas parlé. Hein? Oui, on parlera, Inch'Allah, des temps des prières. Parce que chaque prière elle a trois temps. Donc, premier temps, deuxième temps et troisième temps. On traitera de ce sujet-là. Donc, chaque prière devrait être priée dans le premier temps. D'accord? Chaque prière devrait être, c'est-à-dire, premier temps, on en détaillera sur les temps. Je vais vous donner un exemple. Le premier temps de Dohr, par exemple, il va de Dohr jusqu'à avant l'Asr. Jusqu'à l'Asr. D'accord? Avant que l'Asr rentre. Ça, c'est le premier temps. C'est-à-dire, si tu l'as pris dans ce premier temps, là, tu es dans le temps. Mais celui qui prie dans le début du premier temps, c'est mieux que celui qui prie dans la fin du premier temps. Donc, il y a aussi... il faut distinguer ce qui est meilleur. Taïb. On va parler rapidement des obligations de la prière. Allez. Quelles sont... avant de parler de cela, on va parler comment on traduit Chorot, les conditions. Non. Il y a conditions, Chorot l'oujoub, conditions d'obligation. On commence déjà par les conditions d'obligation. Conditions d'obligation, premièrement, elle est obligatoire pour la condition d'obligation, il faut que la personne a atteint l'âge de la puberté, d'accord, le boulour. Il faut que la personne a atteint l'âge de la puberté, et l'âge de la puberté, dans l'école malikite, chacun a son âge de la puberté, il y a des signes de l'âge de la puberté pour la femme. Ça peut être les règles, ça peut être, pour l'homme, ça peut être la voix qui va changer, ou bien les poils qui vont sortir, etc. etc. Hein, il change, on va dire, physiquement, morphologiquement, etc. Ou si aucun signe qui n'est apparu, ni chez la femme, ni chez l'homme, dans l'école malikite, c'est 18 ans. Donc s'il n'y a aucun signe qui est apparu, c'est 18 ans, comme le dit Ibn Ashar, rahmallah ta'ala. L'islam nous a ordonné que pour les enfants, il faut, à partir de l'âge de 7 ans, les encourager à faire de la prière. Deuxièmement, on a les conditions de validité de la prière. Donc, on a vu conditions d'obligation. Maintenant, les conditions de validité. Sur l'autre, c'est ça. Non.
Il n'y a pas de musulman pour avoir une condition d'obligation.
Dans les conditions de validité. Non. Conditions de validité. Premièrement, être musulman. Donc la prière, elle n'est pas valable d'un non-musulman. Un non-musulman, il vient avec toi à la mosquée, je vais prier. Ben, il faut commencer par être musulman, ça. Il faut faire la shahada. Bon, on ne va pas lui dire, non, tu ne rentres pas, écoute, machin, etc. Mais elle n'est pas considérée comme prière. D'accord. Et au contraire, il veut, on l'encourage, etc. Hein, mais c'est pas, il faut qu'il sache, une fois qu'il est musulman, ce n'est pas considéré comme une prière. Donc, premièrement, être musulman. Non. Deuxièmement, c'est la tahara, c'est-à-dire il faut se purifier, il faut, c'est-à-dire on peut pas faire la prière en portant des impuretés, d'accord, ou sans avoir le wudu, d'accord. C'est-à-dire il faut, on va dire deux choses. Deuxièmement, il faut avoir le wudu pour faire la prière, d'accord? On ne peut pas faire la prière sans wudu. Et troisièmement, il faut se débarrasser des impuretés qu'on porte. C'est-à-dire, si tu as des impuretés sur toi, tu ne peux pas faire cette prière. Il faut que tu, pour que ta prière soit valide, il faut que tu aies le wudu, tes ablutions, il faut que tu te débarrasses des impuretés. Quatrièmement, c'est le fait de se couvrir. On a parlé de nudité, si vous vous rappelez. Hein? On a parlé de nudité, l'aura. La grande nudité. On a parlé de nudité ou non?
Oui.
La grande nudité et la petite nudité. Donc il faut couvrir la grande. On n'a pas parlé de ça? On n'a pas détaillé?
Bon. Oui.
Donc la nudité. On va en détailler la prochaine fois parce que là on est pris par le temps. Notez juste, il faut se couvrir pendant la prière et ne pas dévoiler sa grande nudité. Ensuite on va la détailler la prochaine fois. Cinquièmement, être en direction de la Qibla. Être en direction de la Qibla. D'accord? Donc ça, c'est des conditions de... Donc, on a vu les conditions d'obligation, les conditions de validité. Maintenant, on va voir les conditions d'obligation et de validité. C'est-à-dire, au début, il n'y avait que des conditions d'obligation, ensuite, que des conditions de validité. Maintenant, conditions... Donc, ils sont des conditions de validité et d'obligation en même temps. Premièrement, on a Bulugh Da'wa. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait entendu parler d'islam. C'est-à-dire, quelqu'un qui vit en Amazonie, comment tu veux qu'il prie? Il n'a jamais entendu parler, il vit dans une jungle. D'accord. Bulugh Da'wa. Il faut qu'il a entendu parler d'islam. Deuxièmement, il faut que la personne soit saine de raison. Un fou, tu ne peux pas lui dire écoute, c'est une obligation, il faut que tu fasses la prière, etc. C'est un fou. D'accord. Non. Troisièmement, il faut que le temps de la prière est entré. Tu ne peux pas faire la prière avant l'entrée avant que le temps est entré. Tu ne peux pas faire avant. Il faut qu'on attende, qu'on sente que le temps est déjà entré pour qu'on fasse la prière. Non. Ensuite, le fait de quelqu'un qui dort, tu peux pas. Lui, quelqu'un qui dort, tu peux pas dire. Bien sûr, c'est une obligation pour lui, mais comment il prie tout un temps endormi? Il faut qu'il se réveille pour faire sa prière. D'accord. Ensuite, sixièmement et dernièrement, ça c'est pour les femmes. Il faut qu'on soit en dehors de la période des lochis et des règles. Donc ça, ce sont les conditions d'obligation et de validité en même temps. Donc il faut qu'on soit en dehors de période de lochis et de... Non. Non. Donc je vais me limiter à cela, Inch'Allah, parce qu'il est midi. Pour que, bon, la salle sera... Ils ne vont pas tarder à rentrer. Pardon? Je n'ai pas entendu. Quelqu'un qui parle là? Non. Non, personne. Ah. Donc on se voit, Inch'Allah. On se voit, Inch'Allah. On n'a pas encore terminé. On se voit, Inch'Allah. Juste une seconde. On se voit, Inch'Allah, d'ici dans 15 jours, donc le 10.